Bonjour. J'espère que vous êtes en forme, parce qu'on va lire trois chapitres. Et vous voyez le thème s'afficher ici. C'est le thème de la, un thème assez sympa hein, pour commencer une semaine. C'est le thème de la trahison. Et vous allez voir que ça va jamais s'arrêter. Hein. Donc ça va être assez trash comme ça toute la semaine, mais vous allez voir, c'est voilà, ça va être normalement édifiant, édifiant. Donc on est dans le livre d'Osée. Jusqu'ici, vous n'êtes pas forcément trop surpris. Et donc les chapitres 1 à 3. 1 à 3. Et voilà, on va commencer directement. Avec le premier verset, on va pas lire chapitre 1 à 3 d'un seul bloc, on va séparer en parties et on va expliquer chaque partie, comme ça vous n'allez pas vous endormir. C'est ça le but, même si je sais que vous avez déjà bien dormi. Premier verset, après on va aller un peu plus vite, hein, mais pour l'instant on commence juste avec le premier verset. L'Éternel adressa la parole à Osée, fils de Béeri, sous les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias, roi de Juda, et sous le règne de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Voici le cadre de ce livre d'Osée. Voilà dans quel contexte géopolitique le prophète est apparu. Et donc, il vous faut une petite remise à niveau pour ceux qui ne connaissent pas très très bien l'histoire d'Israël. Nous sommes dans un contexte où le grand royaume d'Israël a été séparé en deux avec un royaume d'Israël au sud, avec pour capitale Samarie, et au nord, pardon, et au sud, le royaume de Juda avec pour capitale Jérusalem. Donc là, Osée intervient dans ce royaume-là, hein, dans ce royaume-là qui est le plus grand des deux. Et voilà. Et au niveau des rois et les frises qui sont sur creusant la Bible, voilà dans quel contexte Osée intervient. Là, vous avez les dynasties du royaume du nord, le royaume d'Israël, et là les dynasties du royaume du sud, Juda. Osée intervient sous le règne de Jéroboam II. C'est donc dans la dynastie de Jéhu, hein. Et donc voilà, il a pour coprophète à peu près à la même époque que lui, Amos et Jonas. Et en même temps que lui, dans le royaume du sud, vous avez Ésaïe et Michée qui interviennent sous les règnes de Jotham, Akaz et Ézéchias. Voilà un peu le contexte de cette période dans laquelle intervient Osée. Et c'est une période très fastueuse. Le règne de Jéroboam II est très connu parce que c'est un règne pendant lequel il y a eu de grandes richesses. Le royaume était dans la prospérité. La suite. Première partie des paroles que l'Éternel prononça par Osée. L'Éternel dit à Osée: Va, prends une femme qui se livre à la prostitution, et des enfants nés de la prostitution, car le pays se vautre dans la prostitution en se détournant de l'Éternel. Alors Osée alla prendre Gomère, Gomère de Diblaïm, elle devint enceinte et lui donna un fils. L'Éternel lui dit: Appelle-le Jizréel, car d'ici peu de temps je ferai rendre compte à la dynastie de Jéhu des meurtres commis à Jizréel, et je mettrai fin à la royauté d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. Gomère fut de nouveau enceinte et mit au monde une fille. L'Éternel dit à Osée: Appelle-la Lo-Ruhama, la non-aimée, car à l'avenir, je ne manifesterai plus d'amour à la communauté d'Israël et je ne lui accorderai plus mon pardon. Cependant, je manifesterai de l'amour à la communauté de Juda. Et moi, l'Éternel son Dieu, je la sauverai moi-même. Et non pas par l'arc, par l'épée ou la guerre, par les chevaux et les équipages de chars. Après avoir sevré Lo-Ruhama, Gomère fut encore enceinte, et elle donna naissance à un fils. L'Éternel dit à Osée: Appelle-le Lo-Ami, pas mon peuple, car vous n'êtes pas mon peuple, et moi, je suis, je ne suis rien pour vous. Ça claque quand on commence une prophétie comme ça. Voilà, avec un prophète qui a pour ordre de se marier avec une prostituée sacrée. C'est toujours sympa, c'est quelque chose d'un petit peu surprenant. Et de lui faire des enfants en plus, hein. Et donc, voilà, on a affaire à une étrange union, à un étrange mariage. Et la première question que les spécialistes se sont posées par rapport à ce mariage, est-ce que oser s'est vraiment marié avec une prostituée sacrée, ou est-ce qu'on a affaire à ce qu'on appelle un mime prophétique? Un mime prophétique, c'est quelque chose que font souvent les prophètes dans l'Ancien Testament. Ils accompagnent leurs paroles d'un mime qui est censé imager ce qu'ils vont dire. C'est comme une parole jouée, une parabole jouée. Jésus, pour expliquer ses paroles, il a utilisé des paraboles, donc vraiment des histoires. Les prophètes dans l'Ancien Testament utilisent parfois des petites scénettes. Ils jouent un rôle. Et donc c'est censé faire réfléchir leurs auditeurs. Donc la question que tout le monde se pose, hein, c'est est-ce que Osée a réellement épousé une prostituée et lui a fait des enfants? Et trois enfants, hein, donc c'est-à-dire c'était une sorte de parabole vivante qui a duré, je sais pas, 5 ans, un truc comme ça. Donc ça a duré longtemps comme explication. Ou est-ce que il est plutôt allé voir une prostituée sacrée, il a fait semblant d'avoir un mariage, il a pris des enfants qu'elle avait déjà, il les a nommés, comme on l'a vu. La question reste ouverte, on va pas trancher ici, même si moi j'aurais plutôt tendance à penser que c'est un mime prophétique. Qu'il l'a pas fait pour de vrai, mais qu'il a fait semblant de le faire pour faire réfléchir la communauté. Mais si vous pensez qu'il l'a réellement fait, vous avez totalement le droit. Mais en tout cas, s'il a fait ça, c'est pour utiliser la métaphore conjugale. Le mari, c'est l'éternel, la mariée, l'épouse, la prostituée, l'épouse qui se livre à la prostitution, c'est Israël. Et là, vous avez en fait avec Osée le premier prophète qui utilise cette métaphore conjugale, qui va avoir du succès, hein, par la suite, puisque d'autres prophètes derrière lui vont l'utiliser, et même jusqu'à l'Apocalypse, vous allez la connaître. Mais en tout cas, c'est une métaphore super imagée, très lourde de sens, hein, l'histoire. D'un mari qui voit sa femme se prostituer, c'est quelque chose qui est très loin d'être agréable, et du coup, tout le monde peut s'identifier au prophète Osée, et tout le monde peut s'identifier du coup à l'Éternel par rapport à son peuple. Mais tous ceux qui peuvent s'identifier font partie du peuple. Et donc, l'air de rien, Osée leur dit, vous êtes des prostituées. Vous êtes des prostituées sacrées, vous êtes infidèles. Et quand Osée donne des noms aux trois enfants qu'il fait à Gomer, donc la prostituée sacrée, il leur donne des noms qui sont lourds de sens. Le premier nom, c'est Jizréel. Et Jizréel, bon, ça ne vous dit pas grand-chose, j'imagine, parce que peut-être que vous n'êtes pas très férus d'histoire d'Israël, mais Jizréel, c'est un lieu de bataille où le roi Jéhu avait pour mission de massacrer la famille d'Akab. Akab, Jézabel, ça vous dit quelque chose? Ouais. Ils étaient méchants, donc Dieu a dit à Jéhu, je te fais roi à leur place, et du coup, tu vas les supprimer, parce qu'en fait, ils sont tellement péchés contre moi qu'ils le méritent. Jéhu le fait. Donc il est sympa, quoi, et enfin il obéit à l'Éternel. Par contre, il a un excès de zèle, c'est que il s'est senti obligé de massacrer aussi la dynastie à côté en Juda. Donc il a tué aussi le roi de Juda avec, histoire de faire un bon gros ménage. Sauf que ça, l'Éternel ne lui avait pas demandé. Et donc, c'est là où à cette bataille de Jizréel qu'il a tué les deux rois, hein, pour le prix d'un. Et donc l'Éternel n'est pas content, et donc en appelant le premier fils Jizréel, il dit qu'il va mettre fin à la dynastie de Jéhu. Et même d'ailleurs qu'il va mettre fin à la royauté tout court. Donc voilà, c'est un jugement qui va s'abattre sur la royauté d'Israël à cause du fondateur de la dynastie qui est Jéhu. Donc c'est bientôt la fin de la royauté en Israël. C'est bientôt la fin d'Israël. Deuxième prénom, c'est une fille, elle s'appelle Lo-Ruhama, c'est-à-dire « je ne t'aime plus, plus d'amour pour toi ». Le Seigneur aime son peuple, mais parce que son peuple lui a été infidèle, eh bien, il ne peut plus l'aimer. C'est l'image donc de la répudiation, hein. Et voilà, c'est un truc logique, ça n'a surpris personne à l'époque. C'est qu'un mari qui est trompé par sa femme, qui est trompé à répétition en l'occurrence, parce qu'une prostituée sacrée, c'est pas qu'un seul adultère, c'est plusieurs par jour, eh bien c'est normal qu'elle soit répudiée et que son mari ne l'aime plus. Troisième enfant, c'est un garçon qui s'appelle Lo-Ammi, plus mon peuple. Et là, on est clairement dans la rupture de l'alliance. Peut-être que vous vous souvenez d'un livre que vous lisez à peu près tous les jours, qui est le Lévitique, au chapitre 26, alors que Dieu conclut une alliance avec son peuple, il lui dit, si tu respectes tous mes commandements, si tu fais tout ce que je t'ai dit de faire, eh bien, tu seras mon peuple et je serai ton Dieu. Tu seras mon peuple et je serai ton Dieu. Et là, maintenant que plusieurs siècles plus tard, Israël lui a désobéi, eh bien, qu'est-ce que lui dit Éternel ? Tu n'es plus mon peuple. L'alliance, tu l'as rompue, donc elle devient caduque. L'alliance n'est plus valable. Et cette image de rupture d'alliance, tu n'es plus mon peuple, elle sera reprise un siècle plus tard par Jérémie, par Ézéchiel, en Juda. Qui vont reprendre ce thème, donc, de vous n'êtes plus mon peuple. Et même, ils vont plutôt dire, ils vont annoncer à l'avance, l'Éternel va vous rejeter, et après vous reviendrez à lui, et vous serez à nouveau son peuple, et il sera votre Dieu. La question de l'alliance, c'est quelque chose qui est très important en histoire d'Israël. La suite, Osée 2, une première partie d'Osée 2 avec les trois premiers versets. Donc après cette image, ce mime prophétique, mais un jour, les Israélites seront nombreux, comme les grains de sable sur le bord de la mer, que nul ne peut compter ni mesurer, et au lieu même où on leur avait dit « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Vous êtes les enfants du Dieu vivant ». Alors les Judéens et les Israélites du royaume du Nord seront unis, et ils se choisiront un chef unique. Ils sortiront du pays de l'exil, car il sera très grand, le jour de Jizréel. Vous direz à vos frères qu'ils seront appelés mon peuple, et à vos sœurs les bien-aimés. Donc, une section, là, beaucoup plus optimiste, qui est tournée vers l'avenir, où c'est un peu l'anti-première partie. Les héritiers de la promesse faite à Abraham, vous vous rappelez de cette promesse faite à Abraham, qui est « je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de sable au bord de la mer », eh bien voilà, il est en train de la faire à ce peuple qu'il vient de répudier. Hein. Ouais, il vient de le répudier, mais il dit dans l'avenir, eh bien vous serez plus nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Mieux que Ruhama. Maintenant, vous allez être encore plus que aimé, encore plus que mon peuple. Vous allez être nombreux. Vous allez connaître le succès. Vous allez plus être un petit peuple. Vous allez être un grand peuple, telle la promesse que j'ai faite à Abraham. Ensuite, il leur annonce un royaume réunifié par un nouveau David. C'est-à-dire un anti-Jizréel finalement. En Jizréel, Jésus a supprimé deux rois. Mais finalement, en fait, ça avait un petit caractère prophétique, puisqu'il y aura un nouveau Jizréel où il n'y aura plus de roi, il n'y en aura qu'un. Et ce sera un nouveau David, un Messie, qui alliera ces deux royaumes qui sont un peu des frères ennemis. Et d'ailleurs, en fait, pour le royaume d'Israël, entendre qu'il y aura à nouveau un seul royaume, c'était une info qui était sûrement difficile à comprendre, difficile à avaler, puisque finalement, c'est le royaume du Nord qui avait fait sécession par rapport au royaume du Sud, qui avait voulu s'en séparer. Et comme c'est une période de prospérité, il n'y a aucune raison de revenir à un seul royaume. Le royaume du Nord est très heureux tout seul. Il n'a pas besoin du royaume du Sud. Mais l'Éternel lui prédit un royaume unique sous un chef unique. Et enfin, à nouveau, Rouhama est ami au verset 3. Vous direz à vos frères qu'ils seront appelés mon peuple et à vos sœurs les bien-aimés. Donc vraiment, on est dans une deuxième partie qui est le contraire de la première. Après la rupture d'alliance, une nouvelle alliance qui se profile avec un nouveau peuple qui est apparemment tout neuf, tout beau, tout sympa, qui est enfin fidèle. Mais il y a une troisième partie. Et encore une derrière. Changement de ton. Intentez un procès à votre mère. Faites-lui un procès, car elle n'est pas mon épouse, et je ne suis pas son mari. Qu'elle ôte de sa face les marques des prostitutions qu'elle a commises, d'entre ses seins les signes de ses adultères. Sinon, je la dévêtirai, et je la mettrai toute nue, comme elle était au jour de sa naissance. Je la transformerai en un désert. Je ferai d'elle un pays desséché. Je la ferai mourir de soif. Et quant à ses enfants, je n'aurai plus d'amour pour eux. Car ce sont des enfants issus de la prostitution. Oui, leur mère s'est adonnée à la prostitution. La femme qui les a conçus s'est couverte de honte. Puisqu'elle a affirmé, « Moi, j'irai après mes amants qui me fournissent mon pain, mon eau, mon lin, ma laine, mon huile et mes boissons. » Voilà pourquoi je vais barrer son chemin avec des épines. J'élèverai un mur et elle ne trouvera plus sa route. Elle poursuivra ses amants sans pouvoir les atteindre. Elle les cherchera sans pouvoir les trouver. Puis elle se dira, « Je vais m'en retourner chez mon premier mari, car j'étais plus heureuse que maintenant. » Or, elle n'avait pas compris que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile, et de l'argent en abondance, ainsi que l'or, dont ils ont fait des statues de Baal. C'est pourquoi je viendrai reprendre mon blé au temps de la moisson, mon vin au temps de la vendange. Je leur retirerai ma laine avec mon lin dont elle s'habillait. Mais maintenant, je vais découvrir son intimité aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de mon emprise. Et je ferai cesser toutes ses réjouissances, ses fêtes, ses nouvelles lunes et ses sabbats, oui, tous ses jours de fêtes cultuelles. Et je dévasterai sa vigne et son figuier, dont elle a dit « Voyez, c'est un cadeau que m'ont fait mes amants ». Je les réduirai en broussailles, et les bêtes sauvages en feront leur pâture. Je lui ferai payer tout le temps qu'elle a consacré au culte des Baals, lorsqu'elle leur offrait du parfum en hommage, lorsqu'elle se parait d'anneaux et de bijoux pour courir après ses amants, sans plus songer à moi, l'Éternel le déclare. C'est la partie centrale de ce passage, une partie très noire, une partie de reproche, c'est le début d'un procès que l'Éternel intente à son peuple, un procès qui va quand même durer jusqu'au chapitre 11. Mais là, c'est le début de ce procès. Et donc, là, on a officiellement une procédure de répudiation. Là, l'Éternel lui dit clairement « Je te rejette ». Je te rejette parce que tu m'as trompé avec le dieu cananéen qui avait des versions différentes selon les contrées, mais qui s'appelle toujours Baal, qui signifie en fait le maître. Et en fait, il confondait Baal avec Dieu. Hein, il disait finalement, c'est la même chose. Voilà. Mais l'Éternel, en fait, il sait que ce n'est pas la même personne, que Baal n'existe pas alors que lui existe bel et bien. Et donc, il leur dit, « Je vous répudie, puisque vous m'avez trompé. » Et nous voyons ce qu'est l'adultère spirituel dans cette partie. Quel est le cœur de l'adultère spirituel ici? C'est que Dieu a pris soin d'eux. Ils sont sur la terre promise, et comme Dieu leur avait promis, eh bien, il fait pousser tout un tas de bonnes choses, hein, du blé, de la vigne, pour prendre soin d'eux. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, c'est grâce à Baal qu'on a tout ça. Dieu est généreux avec eux, et eux, ils remercient quelqu'un d'autre, à la place du seul vrai Dieu. Et il le remercie pas n'importe comment, et il se prostitue. Et le système, hein, c'est que pour remercier un dieu païen, vous alliez dans un temple et vous couchiez avec des prêtres, des prêtresses, pour célébrer une sorte d'union mystique avec ce dieu-là. En couchant avec la prostituée sacrée, eh bien, vous faisiez un avec le dieu qu'elle représentait. Et vous faisiez des gâteaux de raisin, des choses comme ça. Il y avait tout plein de rituels pour rendre un culte à ce dieu Baal. Et grâce à ces forces de la nature vivifiées par les rapports sexuels, eh bien, on pouvait avoir des récoltes meilleures. On pouvait compter sur le fait que la nature, eh bien, soit vivifiée entièrement et que les récoltes soient bonnes. Les Israélites croyaient que c'était en faisant ça qu'ils avaient de bonnes récoltes. Ils croyaient que c'était grâce à Baal, alors qu'en fait c'était Dieu qui leur donnait. Et en plus, les bénédictions qu'ils récoltaient, par exemple comme l'or, qu'est-ce qu'ils en font de cet or que Dieu leur a donné? Eh bien, ils l'offrent en culte, ils l'offrent en offre, ils en font une offrande pour Baal. Exactement comme les Israélites qui sortent d'Égypte avec l'or des Égyptiens. Vous savez, vous vous rappelez, les Égyptiens leur filent de l'or en disant « Allez, barrez-vous parce qu'il y en a marre des fléaux. » Et avec cet or, qu'est-ce qu'ils font? Vous vous rappelez? Un veau d'or. Et finalement, Israël ne change pas. Les bénédictions que Dieu lui donne, elles s'en servent pour le tromper. C'est le comble de l'adultère. Et du coup, voilà, on a un châtiment qui est logique et pédagogique, qui est là pour faire réfléchir. Nous avons l'exécution des menaces de l'Alliance, du Lévitique. En Lévitique 26, Dieu décrit aux Hébreux que s'ils ne sont pas fidèles, eh bien, le pays qui est promis, qui est normalement ruisselant de lait et de miel, se transformera en pays stérile. La terre promise devient une terre inhospitalière. Et c'est ce qu'on voit dans ce passage, hein. Je reprendrai mon blé, je reprendrai mon vin. Je dessécherai la terre. Cette terre deviendra inhospitalière. Je vous rappelle que Osée dit ça dans une période de grande prospérité. Les gens se saoulent tous les soirs. Tout le monde va très très bien au niveau matériel. Enfin, en tout cas, les riches vont très très bien au niveau matériel. C'est quelque chose qui est impensable pour les gens de cette époque. Mais Osée leur dit, bientôt, vous n'aurez plus rien. L'Éternel va tout vous reprendre. Et s'il leur reprend tout, c'est pour provoquer la réaction du verset 9. Je m'en vais retourner chez mon premier mari, car j'étais plus heureuse que maintenant. Dieu leur enlève tout pour qu'ils se disent, mais oui, en fait, on était mieux avec lui. Et ça vous rappelle une parabole de Jésus, normalement. La parabole du fils prodigue. Le fils qui abandonne son père. Et bah, une fois qu'il a à peu près le même menu à table que les cochons, eh bien il se dit, bah oui, j'étais beaucoup mieux avec mon père, et il revient vers son père. La suite, verset 16. C'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert et parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai ses vignobles d'antan et la vallée d'Accor deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte, et il arrivera en ce temps-là, l'Éternel le déclare, que tu me diras mon époux, et tu ne m'appelleras plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, et le souvenir même de ces noms se perdra. Je conclurai en ce temps-là une alliance pour eux, avec les oiseaux sauvages et les animaux sauvages et les oiseaux du ciel, et les animaux qui se meuvent au ras du sol. Je briserai l'arc et l'épée, et je mettrai fin à la guerre. Ils disparaîtront du pays, et je les ferai reposer dans la sécurité, puis, pour toujours, je te fiancerai à moi. Je te fiancerai à moi en donnant comme dot et la justice et la droiture, l'amour et la tendresse. Je te fiancerai à moi en donnant pour toi la fidélité. Et tu connaîtras l'Éternel. En ce temps-là, je répondrai, l'Éternel le déclare, je répondrai à l'attente du ciel, et le ciel répondra à ce qu'attend la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau, ainsi qu'à l'huile fraîche, et ceux-ci répondront à l'attente de Jisraël. Et je les répandrai comme de la semence. Pour moi dans le pays, je prodiguerai mon amour à celle qu'on nommait l'Aurorama, et je dirai l'eau amie. Tu es mon peuple. Et il dira, tu es mon Dieu. On commence à se diriger vers un happy end. Un nouvel exode, c'est la reconquête de l'Éternel, c'est la reconquête du mari vers sa femme adultère. On a le droit à un nouvel exode au verset 16 à 18. Il se rappelle le bon vieux temps de la sortie d'Égypte, le bon vieux temps du désert où Israël n'avait pas les moyens d'être idolâtre. Où Israël, en plein désert, ne pouvait que compter sur l'Éternel. Même s'ils étaient râleurs, même s'ils ont fait pas mal de bêtises quand même, eh bien, la plupart du temps, ils étaient obligés de compter sur l'Éternel. Et l'Éternel leur dit, eh bien voilà, je vais te reconquérir comme pour un nouvel exode. Et après la nouvelle exode, eh bien, je vais conclure une nouvelle alliance. Je te fiancerai à moi et tu seras fidèle. Tu seras mon Dieu, tu seras mon peuple, pardon, et je serai ton Dieu. Tu m'appelleras enfin mon Dieu et tu ne m'appelleras plus mon Baal. Tu comprendras réellement qui je suis, moi, ton mari. Et ça, c'est beau. Parce que du coup, le mariage d'avant, finalement, c'était un petit peu du cinéma, c'était un petit peu un malentendu. Le mariage qui s'annonce là, cette reconquête, cette nouvelle alliance, est un mariage où finalement, chacun des deux époux sera fidèle l'un envers l'autre. Et ce sera beau, enfin beau. Ce ne sera plus médiocre comme avant. Et pour couronner le tout, eh bien, Dieu leur promet une nouvelle terre promise. Une terre qui donnera ses fruits. Une terre avec de l'abondance, encore plus abondante que du temps d'Osée, que du temps du roi Jéroboam II. Je ne sais pas si ça commence à vous dire quelque chose, un nouvel exode. Une nouvelle alliance, une nouvelle terre promise. Parce qu'en fait, le truc qui est bizarre, c'est que les Israélites vont aller en exil. Dieu va les virer de leur terre. Mais en fait, nous savons que les Israélites ne sont jamais revenus. Le royaume du Sud, en Juda, eux, ils vont partir à Babylone et on sait qu'ils vont revenir, c'est décrit. Mais le royaume du Nord, il va partir et on ne le revoit plus. Ils ne reviennent pas. Mais pour qui est cette promesse? Le suspense est intense. Dernier chapitre, les 5 derniers versets. Et l'Éternel me dit, va encore aimer une femme adultère, aimant le mal. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites, alors que ceux-ci se tournent vers d'autres dieux et se délectent de gâteaux de raisins consacrés. Je rachetai donc une femme au prix de 15 pièces d'argent et 450 kilos d'orge. Et je lui dis, tu resteras pendant longtemps pour moi, sans te prostituer et sans te donner à aucun homme. Et moi, j'agirai de même pour toi. En effet, les Israélites resteront pendant longtemps sans roi et sans chef, sans sacrifice et sans stèle, sans statue et sans divinité domestique. Après cela, ils reviendront à l'Éternel leur Dieu et se tourneront vers lui, ainsi que vers David leur roi. Dans la suite des temps, ils viendront tout tremblants à l'Éternel pour bénéficier de sa bonté. nouveau mariage. Ce qui pourrait quand même nous montrer que c'est un mime prophétique, parce que quand même, Osée se marie deux fois, avec deux femmes différentes. Ce qui commence à faire beaucoup pour un vrai mariage. On nous décrit ici, au verset 1, un amour malheureux. Un amour malheureux d'avance. Hein. C'est vraiment, va aimer une femme qui est adultère, qui aime le mal. Et tu vas la racheter. C'est une femme, finalement, qui est un peu comme esclave. Elle est prostituée sacrée, et c'est un maître qui l'a achetée, et donc elle fait ça sur les ordres de son maître. D'ailleurs, on ne sait même pas si elle est prostituée sacrée ou pas. Mais en tout cas, puisqu'il faut la racheter, apparemment, elle est dans un commerce, quoi. Hein. Elle est à quelqu'un d'autre. Et là, le but, c'est que le mari la rachète. Mais apparemment, en fait, elle est déjà adultère. Et, c'est un amour qui n'est pas forcément à double sens. Et comment est-ce que le mari la rachète ? Il la rachète grâce à un exil. Puisqu'on nous dit cette femme n'aura plus de chef, elle n'aura plus de roi, elle ne pourra plus avoir de sacrifice, elle n'aura plus de stèle ou de choses comme ça pour se livrer à l'idolâtrie. Pourquoi est-ce qu'elle n'aura plus ça ? Parce qu'elle n'aura plus de pays. Elle sera en exil. Et pour oser l'exil, le fait d'arrêter d'être sur la terre promise, d'arrêter d'être dans la prostitution, l'exil, c'est une cure de désintoxication spirituelle. Je vous vire de mon pays pour qu'enfin vous arrêtiez, vous faites pourri, vous faites idolâtre. Comme ça, vous allez être en désintoxication. Vous ne pourrez plus avoir de Dieu étranger. Et enfin, à la fin, il y aura un amour réciproque. Enfin, à la fin, vous allez me reconnaître comme Dieu et vous allez vouloir bénéficier de ma bonté. Alors vous voyez, ce passage est un peu bizarre parce que au niveau chronologique, on a du mal à suivre, quoi. C'est positif, négatif, voilà. Et en fait, il y a un secret là-dessus, c'est que nous sommes dans une structure concentrique. Ce que les Anglais parfois appellent un chiasme. On commence avec un geste symbolique, annonciateur du jugement. Ensuite, on va vers un oracle de salut. Ensuite, on a le procès d'Israël, où il y a une vraie répudiation en bonne et due forme. Ensuite, ça revient avec quelque chose de sympa, un oracle de salut. Et enfin, à la fin, un geste symbolique annonciateur du salut. Donc deux mariages, un au début et un à la fin. Deux oracles, et en plein milieu, vous avez le procès d'Israël. Et ça tombe bien parce que le procès va durer 11 chapitres. Vous voyez, il y a une structure qui se tient. Et chez le prophète Osée, il y a beaucoup ce genre de choses. Vous en verrez encore plusieurs demain, et après on arrêtera parce que après il faut les chercher, il faut surtout les trouver. Mais en tout cas, voilà le pour vous montrer que la structure se tient et vous montrer aussi pourquoi en fait on comprend pas trop pourquoi on passe par des côtés négatifs et des côtés positifs. En tout cas, ce que nous révèle ce passage, c'est que il y a un amour divin envers son peuple, un amour de Dieu pour son peuple, mais aussi du coup une indignation quand il voit son peuple le trahir. Ensuite, on voit que la seule solution possible pour faire réfléchir le peuple, c'est un rachat et un renouvellement de l'intelligence. Un choc, puis qui va provoquer une réflexion, puis un retour. Et enfin, nous avons ces versets qui vous ont peut-être frappé. Hein, au lieu même où on leur avait dit « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Vous êtes les enfants du Dieu vivant ». Vraiment, un passage d'un stade très négatif à quelque chose de super positif. Et vous voyez, ces étapes-là, on les retrouve beaucoup dans le Nouveau Testament, hein. Où on a un Dieu qui n'est absolument pas content de l'impureté de son peuple, du péché de son peuple, du péché de l'humanité. On a la seule solution possible pour lui, pour châtier le péché, mais en même temps pour racheter son peuple, c'est d'envoyer son fils Jésus pour le rachat du peuple, pour mourir à la place du peuple, pour
possible retour de son peuple. Mais en plus, après la croix et la résurrection, il rend possible le renouvellement de l'intelligence pour que le peuple se rende compte de son péché et se rende compte qu'il n'y a qu'avec Jésus qu'il pourra être sauvé et qu'il revienne à Dieu. Mais c'est pas fini. Il y a la troisième partie, celle-ci là. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais dans Romains 9, dans 1 Pierre 2, Pierre et Paul utilisent ces versets-là pour les païens. Pas pour Israël, pour les païens. Et c'est la dernière étape du plan du salut. Hein. C'est que c'est pas pour les Israélites qui avaient ces paroles. C'est pour nous, pour les païens, pour ceux qui ne font pas partie au départ du peuple de Dieu. Ça s'est ouvert. Ceux qui n'étaient réellement pas du peuple de Dieu, même infidèles, ceux qui étaient très 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 infidèles, qui étaient vraiment païens, qui étaient exclus, bah Dieu en a fait son peuple. Du coup, la question que nous pouvons nous poser, c'est en qui, en quoi mettons-nous notre confiance? Sur quoi repose notre bonheur? Et c'est vraiment une question très pertinente à se poser parce que ce passage nous dit que si nous ne mettons pas notre bonheur sur Dieu, eh bien, par pédagogie, il est capable de tout nous enlever pour que nous comprenions qu'il n'y a qu'en lui que nous pouvons être heureux. Et ça peut arriver à des chrétiens comme nous, hein. Et finalement, le fait que Dieu enlève les choses sur lesquelles nous nous appuyons, et donc qui sont finalement des idoles, c'est une preuve qu'il nous aime. Et par exemple, pour ceux du niveau 3 hein, qui font de l'apologétique, de la défense de la foi, c'est aussi une manière de répondre à la fameuse question « Si Dieu existe, pourquoi le mal ?» Si Dieu existe, pourquoi le mal ? Eh bien, pourquoi est-ce qu'il vous arrive certaines souffrances ? Mais c'est parce que Dieu vous aime. Il vous aime parce que justement, il veut vous montrer qu'il n'y a qu'en lui que vous pouvez trouver le bonheur. Parfois, Dieu doit agir de manière quasi violente pour sortir l'homme de sa frénésie idolâtre et refaire fonctionner son cerveau normalement. C'est vraiment la cure de désintoxication. Je reprends l'image, mais je pense qu'elle est très juste. Hop, bon, d'accord. Encouragement. Je pense que ce passage est un encouragement à la restauration des bonnes relations. Vous voyez qu'on a un mari trompé, mais un mari qui ne lâche pas l'affaire. Il répudie sa femme, mais après il veut la reconquérir. Et je pense que dans l'Église, nous sommes encouragés à reconquérir les personnes avec qui nous avons des différends. La question du pardon est une question qui est très très importante dans l'Église, où finalement nous sommes des gens vraiment très très différents, et donc on peut se faire du mal, on peut se faire du tort. Ça peut commencer déjà dans le couple, hein, mais ça peut aussi s'étendre à l'Église. Et je pense que ce passage nous encourage à restaurer de bonnes relations malgré les blessures qu'on a pu s'infliger. Mais bien sûr, sous certaines conditions, il faut reconnaître ses torts. Il faut se repentir. Et là, je vous renvoie au passage de Matthieu 18, le grand passage à propos du pardon. Parce que dans le cas contraire, si une des deux parties ne se repent pas, il faut lui montrer qu'elle doit se repentir. Et ça peut aller jusqu'à l'exclusion. Dans le Nouveau Testament, il y a une expression qui revient souvent chez Paul, c'est « livrer quelqu'un à Satan ». Une expression un petit peu « wow », comme ça, « livrer quelqu'un à Satan ». C'est quelqu'un qui fait quelque chose de mal, qui ne veut pas reconnaître qu'il fait quelque chose de mal, donc pour qu'il réfléchisse, eh bien on lui dit « tu es exclu de la communauté des croyants ». On ne sait pas trop ce que ça veut dire, on ne sait pas trop si c'est exclu de la scène, mais en tout cas, on lui fait comprendre qu'il n'est plus le bienvenu dans la communauté, que puisqu'il ne se repent pas, il n'agit pas en chrétien. Et donc, on le remet dans le monde, quoi. Et parfois, dans certains passages, il ne faut même plus dire bonjour à certaines personnes. Il ne faut même plus les saluer pour leur faire comprendre qu'elles sont allées trop loin et qu'elles doivent se repentir. Et si on lit mal ces passages, on pourrait comprendre vraiment comme quelque chose de... Un truc vraiment comme ça, inflexible, dur. Voilà, nous on est bien, toi t'es mauvais, toi tu te casses, quoi. Mais en fait, ce n'est pas du tout le but des passages. Le but des passages, c'est que les personnes elles soient exclues pour éprouver de la honte, pour réfléchir à ce qu'elles ont fait, et revenir repentantes, et être réintégrées. Le but, c'est la réintégration. Parfois, il faut être dur pour regagner des frères et des sœurs. Et voyez, la bonté de Dieu n'est jamais contradictoire avec sa pédagogie parfois violente. N'est jamais contradictoire avec le fait que parfois il juge, il châtie. Dans une société où on peine à dire aux gens qu'ils font quelque chose de mal, je pense que c'est quelque chose qui est important. N'ayons pas peur de dire à des personnes qu'elles font mal, ou en tout cas qu'elles nous ont fait mal. N'ayons pas peur de cette vérité-là. Et j'aimerais conclure par l'amour de Dieu. Ici, nous avons un amour absolument merveilleux de la part du Seigneur. Un peuple qui lui a totalement échappé. Un peuple qui est hors de contrôle. Un peuple qui fait les pires choses. Dieu pourrait faire un nouveau déluge. Pourrait le détruire totalement. Mais il choisit de le racheter. Ça a pris du temps. Il est par étapes. Il s'est révélé progressivement. Il a montré progressivement qui il était. Mais ce qui est génial, c'est que si nous sommes là aujourd'hui, en 2016, c'est parce qu'il est venu nous chercher. Et si nous sommes honnêtes, nous savons très bien que nous n'avons rien fait de bien pour qu'il vienne nous chercher. Mais il est venu nous chercher. Il nous a pris par la peau du dos, souvent, hein. Il nous a fait traverser plusieurs épreuves pour qu'on comprenne. On est allé au pied de la croix en disant « Bon, j'ai compris, j'ai uniquement besoin de Jésus pour être sauvé. » Et depuis, il fait un travail absolument merveilleux dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est absolument formidable et nous avons encore 5 jours pour le découvrir.